sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Aujourd'hui, nous observons ensemble non pas une, mais plusieurs œuvres regroupées sous la forme d'un livre. Un livre qui est le fruit de plusieurs allers-retours dans les régions du Sahel, au Mali, mais aussi dans les pays frontaliers, au Burkina Faso, au Niger ou en Mauritanie. Intitulé « Retour à Tombouctou », c'est un livre qui nous offre des portraits, des paysages, des cartographies, des peintures et des photographies, mais aussi les impressions écrites de l'artiste Titouan Lamazou, réalisé entre 1998 et 2015. Ce sont des récits d'histoires individuelles, les histoires d'Aïcha, Mohamed, Mariam, Alfaki ou Assiétou, à différents moments de leur vie. Mais c'est aussi une ode à mieux comprendre le peuple Touareg et son histoire, un peuple de nomades qui, en 2012 dans le Nord Mali, ont été obligés de fuir à cause du contrôle des cités par des groupes extrémistes.
C'est l'histoire d'un avant et d'un après. L'avant, c'était il y a 15 ans. J'ai vécu plusieurs mois à Tombouctou, charmé par la douceur de vivre à l'ombre des premières dunes du Sahara et par l'hospitalité de mes hôtes nomades. À l'époque, je n'avais pas pris conscience des tensions qui agitaient cette région depuis le temps des colonisations et celui du découpage frontalier des nouveaux États indépendants dans les années 1960. Ces tensions avaient pourtant déjà éclaté en des révoltes successives. L'après, c'est aujourd'hui. Dans cette région du monde, les tensions se sont à nouveau muées en conflits armés. Début 2013, je suis parti en quête de mes amis nomades d'alors. La plupart d'entre eux avaient fui Tombouctou. Ils sont devenus réfugiés. J'ai côtoyé à nouveau leur peuple, confronté à la guerre. Une guerre nouvelle où se mêlent les enjeux contemporains, l'effritement de la cohésion sociale, la redistribution des influences internationales, l'émergence du salafisme, des trafics d'armes, de stupéfiants et d'otages, les intérêts miniers, la désinformation moderne.
Suivi par la musique du groupe Touareg TerraCraft sur le titre « Mon ami avec qui je partage ». On entendait à l'instant le texte inaugural du livre « Retour à Tombouctou » et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui dans Les Regardeurs l'auteur de ce livre, le grand artiste Titouan Lamazou. Bonjour Titouan.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Alors Titouan, vous êtes d'abord un grand navigateur. Vous avez embarqué très jeune pour une traversée de l'Atlantique avec Éric Tabarly, puis vous enchaînez les prix. Premier monocoque de Québec-Saint-Malo en 88, de la route du Rhum en 90 et vainqueur du Vendée Globe Challenge en 90 également. C'est à partir de 93 que vous décidez de vous consacrer à la création artistique en gardant cet amour du voyage, puisque vous vous êtes fait connaître par le biais de dessins, croquis, gouaches, collages qui nourrissent alors vos carnets de voyage que vous décidez de publier. Donc depuis, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages qui sont autant de portraits de protagonistes rencontrés au gré des routes et des affinités. Et en 2007, je rappelle qu'a eu lieu au Musée de l'Homme à Paris l'exposition « Zoézo et femmes du monde » qui présentait des centaines de portraits de femmes que vous avez réalisés pendant 6 ans autour du monde. C'est cela ?
C'est cela.
Exactement. Vous avez été d'ailleurs nommé en 2003 artiste de l'UNESCO pour la paix en reconnaissance justement de votre engagement personnel pour les droits des femmes. Alors aujourd'hui, donc, vient de paraître votre dernier ouvrage, qui est encore une fois, j'ai envie de dire, mêle avec brio le cheminement très subjectif de l'artiste que vous êtes, et puis des résonances plus larges, une réflexion engagée, peut-être sur ce qu'est la condition des hommes que vous rencontrez. Peut-être, Titouan, dans un premier temps, vous pouvez nous raconter l'histoire de ce livre. Quelle est l'histoire sous-jacente à Retour à Tombouctou, qui vient de paraître chez Gallimard ?
Alors, l'histoire elle-même a commencé à Tombouctou il y a un certain nombre d'années, il y a plus de 15 ans, en 98. Je réalisais alors le portrait de photographe que vous connaissez sûrement sur cette antenne
qui était Seydou
Keïta, qui est décédé maintenant, ou Malik Sidibé, qui est toujours vivant. Et il se trouve que...
Grand photographe, effectivement.
Voilà, des grands photographes africains du XXe siècle. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais à Bamako, j'étais dans ce pays pour la première fois, en 98. Et comme tout Européen, je dirais, ou Français en particulier, je transportais en moi la fascination, ce mythe de la ville de Tombouctou et des hommes bleus,
Les hommes bleus, qui est ce terme dans de nombreuses mythologies qui désigne le peuple Touareg.
Le peuple Touareg, à cause de l'indigo qui teinte à la fois leurs vêtements et leurs vêtements teintent la peau, donc ils deviennent bleus. J'avais dit à l'époque à Seydou Keïta un jour, je ne vais pas venir aujourd'hui travailler avec toi, je vais aller voir Tombouctou. Et Seydou m'a dit, ça tombe bien, parce que ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que Seydou Keïta était marié à une femme Touareg de Tombouctou, dont la nièce venait de divorcer à Bamako, une jeune femme qui rentrait au pays. Et Seydou m'avait demandé, à l'époque, il trouvait convenable que sa nièce soit escortée par quelqu'un pour son retour à Tombouctou. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, parce que ça me permettait de connaître, d'avoir un contact dans cette ville où je n'avais aucune relation. Et à partir de là, ça m'a tellement plu cet endroit. Tombouctou est une ville, et c'est ce qui fait son charme, qui est habitée par divers peuples, qui sont les Peuls,
les Songhais, les
Sonraï, Arma, Arabes, qui partagent ce coin du monde depuis des siècles et qui sont souvent mariés entre eux. Donc
on a une mixité culturelle.
Voilà, une mixité culturelle un peu partout, comme un peu partout dans le monde, mais là particulièrement.
Et donc en début 2013, Titouan, lorsque vous entendez parler de récents événements, vous êtes parti en quête de ces amis nomades rencontrés dans la fin des années 90. Et la plupart d'entre eux avaient fui Tombouctou et sont devenus réfugiés.
Voilà, j'avais des relations avec eux depuis longtemps. Ces familles, j'ai vécu quand même pendant plusieurs années, il y a une quinzaine d'années, dans ces coins-là. J'avais gardé des relations épistolaires tout d'abord, puis en texto par la suite, parce que tout le monde a des portables maintenant là-bas. Et puis tout d'un coup, rupture de contact, parce que une nouvelle rébellion avait surgi en 2012 et qui avait été débordé complètement. C'était un nouveau facteur par rapport aux rébellions passées, un nouveau facteur qui était les groupes salafistes, l'ACMI, Ansardine et d'autres, ou Moudjao, d'autres groupes extrémistes, et qui avaient pris le dessus. Pourquoi ? On y reviendra peut-être. Pourquoi ? Parce que, en grande partie aussi, à cause de notre inconséquente intervention en Libye, qui a vu la chute de Kadhafi et de son armée, et une grande partie de l'armement de cette armée libyenne est passée dans les mains des salafistes et des groupes extrémistes qui ont engendré une nouvelle intervention française au Mali pour essayer de les stopper. En tout cas, l'année 2012, pour ceux qui ont vu le film Timbuktu par exemple, vous savez que pendant 2012, Tombouctou a été occupé par ces groupes salafistes et qui a engendré la fuite de quasiment toute la population en exode, en exil, vers
les pays frontaliers qui sont le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie.
Et la Mauritanie.
Donc vous, en 2013, quand vous revenez finalement au Mali, pour retrouver les personnes qui vous étaient chères et que vous aviez rencontrées à la fin des années 90, vous faites le tour justement de ces camps de réfugiés qui sont nichés dans ces pays frontaliers.
Oui, par pure amitié et solidarité, disons, j'ai essayé de retrouver les familles que je connaissais le mieux, que j'ai retrouvées assez rapidement, d'ailleurs, parce que tout le monde se connaît un peu, dans un camp de réfugiés au commissariat aux réfugiés au Burkina Faso. Mais à ce moment-là, Aïcha et ses frères et sa famille m'ont dit, tu sais, la petite Fatoumata que tu avais dessinée toute petite, elle est réfugiée au Niger, elle est mariée maintenant. Puis le cousin Mohamed, il est en Mauritanie, etc. Je n'étais pas parti vraiment pour réaliser un ouvrage. Mais de fait, je me suis dit, ça a été un prétexte comme pour moi souvent. les voyages sont des prétextes à création, eh bien, j'ai suivi le fil conducteur de ces voyages pour essayer de comprendre moi-même, pour retrouver des personnes. Et ça m'a pris 3 ans et demi, de camp de réfugiés en camp de réfugiés.
2013, de, jusqu'à, 2012 jusqu'à 2015.
Au printemps 2015.
Printemps 2015.
Où il y a eu ce retour à Tombouctou, à la fois des réfugiés, parce qu'une paix
relative était mise en place, on a dit.
En tout cas, était signée. Et toutes ces personnes, comme tous les réfugiés du monde, ou les migrants, ne choisissent pas leur statut. Et la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est rentrer chez eux, ce qu'ils ont fait à la première occasion à peu près favorable. Et je les ai accompagnés. Donc c'était à la fois un peu, c'est un ouvrage un peu autobiographique, où j'ai rencontré ces gens il y a 15 ans, dans un temps de paix, en temps de guerre, et un temps de paix à nouveau. Et ce retour à Tombouctou, c'était le leur et aussi un petit peu le mien.
Oui, alors pour expliquer aux auditeurs, votre ouvrage est plein de nombreux portraits, de nombreuses cartes de vos allers-retours justement au Mali. Et il y a la vraie recherche d'une création particulière dans ces portraits, chaque fois renouvelés d'année en année, avec évidemment un contexte géopolitique qui existe en filigrane du livre. Mais il y a vraiment dans les pages du livre des recherches. Est-ce que vous pourriez parler de ces recherches finalement qui illustrent aussi ce voyage ?
Il y a une évolution de mon travail, si vous voulez, quand vous disiez au début de l'émission que je m'étais mis à peindre après mes aventures maritimes. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque j'avais décidé d'être artiste à l'âge de 11 ans.
Vous aviez fait les Beaux-Arts, auparavant.
Très jeune, sans passer par la case baccalauréat. Et j'avais été habité très jeune aussi par le goût du voyage et l'envie de voir ce qu'il y avait derrière les horizons. Et c'était pour moi, c'est devenu le monde, puis dire, est devenu mon atelier. Et ce qui a influencé aussi mon mode de travail. C'est-à-dire qu'à l'époque, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais un artiste relativement classique. Je peignais à l'huile, je m'intéressais à l'art contemporain à l'époque. J'avais des profs aux Beaux-Arts qui étaient des animateurs du groupe Pour Surface, par exemple. Et du fait que je sois parti en mer et détourné effectivement pendant quelques années par l'outil de voyage qui est le bateau, mon expression, elle a été assujettie à ce mouvement. C'est-à-dire qu'au départ, je prenais des petites boîtes d'aquarelle et un petit carnet, puis petit à petit, comme ce mode d'inspiration demeurait, et que je ne me satisfaisais pas forcément de cette expression première, j'ai alourdi un petit peu mon cabas, et je me suis retrouvé en faisant de la photographie, et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai recouvré mes premiers modes d'expression, que sont la peinture à l'huile et les grandes toiles, et je me retrouve parfois comme les impressionnistes, avec mon chevalet planté dans le désert, devant une toile. Et je continue aussi à photographier. Écoutez,
enfin, votre chevalet dans le désert, mais avec l'armée française qui vous suit,
dans certaines occasions. Peut-être pour ça que ça a pris beaucoup de temps aussi, ces voyages dans le Sahel, parce que les déplacements sont assujettis à la sécurité. Mais je prends quand même moins de risques, si vous voulez. Je pense que les journalistes qui font du reportage quotidien, du reportage des reporters de guerre, mais qui font de l'actualité quotidienne, parce que, moi, si vous voulez, si j'étais journaliste, ce que je disais à mon rédacteur en chef, que je lui ramène ma copie dans 3 ans et demi, il serait sûrement pas très d'accord. Alors que je pense que des journalistes prennent aussi quelques risques, parce qu'il faut qu'ils donnent de l'information au quotidien, alors que moi, je prends mon temps. C'est d'ailleurs, parce que pour décrire mon travail, le facteur temps est super important.
Avant de revenir à cette situation délicate que vous avez vécue entre 2013 et 2015, écoutons un autre extrait de Retour à Tombouctou.
Vu de l'extérieur, un camp de réfugiés, c'est comme un camping surpeuplé qui serait implanté dans un lieu si désolé qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'y séjourner. Les parcelles de chaque famille sont mitoyennes et délimitées par des alignements de cailloux avec un numéro peint. Celles des gens de Baritz, le quartier d'Aïcha à Tombouctou, sont du côté du grand arbre là-bas. Les campements, les gens du nord, ils connaissent. Ils savent monter une tente nomade avec des branchages habilement ployés et noués. Quelques nattes dégotées de ci de là forment la première couche isolante. La bâche étanche, fournie par le HCR, est solidement arrimée là-dessus. C'est comme chez soi, en somme. À part cette insupportable proximité subie au long des jours et des nuits qui s'égrènent, immobiles, ponctuées de loin en loin par les distributions de vivres, il faut alors faire la queue avec son document de rationnement où sont enregistrés tous les membres de la famille. Les gens du désert vivent au rythme des saisons. Vu de l'intérieur, le camp de réfugiés est vécu comme un centre de rétention. De sa pudeur, l'apathie voile l'humiliation. Si au cours de cette quête, j'ai d'abord réalisé nombre de portraits de femmes, c'est moins par habitude que parce que je fus frappé par ce paradoxe. La cause touareg était soudain amalgamée dans cette nouvelle guerre à celle d'extrémistes aux dogmes rétrogrades, notamment à l'égard du statut des femmes. Dans leur mythologie commune, les Touaregs, peuple multiple, ont élu une reine fondatrice, Tininan, décrite sous les traits d'une princesse de grande vaillance et d'une immense beauté. La plupart des sociétés Touareg sont matrilinéaires, et les Touaregs jouissent de prérogatives impensables plus au nord, où l'on voit les femmes, au sud, où l'on excise, et à Bamako, où le code de la famille en vigueur est toujours au détriment du sexe faible. En cas de divorce, exemple qui n'est pas rare, la femme Touareg garde fréquemment les enfants, les biens, les tentes et les troupeaux.
Alors, on entendait de nouveau des extraits de votre livre « Titouan Lamazou, retour à Tombouctou ». Dans ces deux extraits, j'ai l'impression que vous soulignez le fait que la condition Touareg, la cause Touareg, est souvent mal comprise. C'est une culture très particulière qui a par exemple du mal à se faire avec la promiscuité obligatoire des camps de réfugiés qui ont existé, puisque cela va à l'encontre de leur manière de vivre, non ?
Ben, ce sont des personnes qui vivent dans des grands espaces. Et là, quand on parle, effectivement, on parle de Touareg, mais on parle aussi de leurs cousins arabes, sans rail ou peul, qui sont dans ces mêmes conditions et se retrouvent. Mais je crois que on pourrait dire que ce sont des peuples effectivement nomades qui bougent. Alors, on pourrait penser que s'ils se retrouvent dans un camp de réfugiés, ben, ça leur change pas beaucoup leur cadre de vie, sauf qu'ils sont entassés les uns sur les autres et que ça leur plaît pas beaucoup. Et c'est surtout une question, je pense, de libre arbitre, et d'être. Mais je pense nous réagirions de la même façon si on était contraint d'être assisté. Et donc ces hommes, ces femmes qui bougent beaucoup. Et le mouvement est difficile aussi quand on est réfugié, parce que aujourd'hui, malheureusement, en grande partie à cause de nous, occidentaux, les frontières deviennent de plus en plus visibles et de plus en plus contraignantes, alors que ce sont des peuples dans cette bande sahélienne qui vivent de toute éternité, qui ont toujours vécu en mouvement, que ce soit pour le pastoralisme nomade, le petit commerce. Et puis, il y a des gens qui partent par-ci, par-là pour faire des travaux saisonniers dans les pays voisins ou dans les contrées voisines, depuis toujours, avant qu'il y ait même ces frontières-là. Et les grandes caravanes dont tout le monde a entendu parler. Donc, ce sont des pays qui bougent, ce sont des gens qui sont nomades, mais quoique le nomadisme, à cause de l'augmentation des populations, de ce renforcement de frontières, est en train de, petit à petit, comme tous les peuples nomades au monde, ils ont ce point commun, c'est qu'ils sont en voie de disparition, ce qui est bien dommage. Mais il y a une chose quand même qu'il faut dans ces camps de réfugiés, qu'il faut dire, c'est là où j'étais étonné, sinon choqué, à mon retour, en 2014, surtout en 2015 ici, quand on voyait un pays comme la Mauritanie. Elle est peuplée de 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants, c'est assez peu pour un vaste pays qui n'est pas aussi grand que la France et qui est un pays au niveau de vie qui est quand même relativement bas. Sans parler de misère, c'est une honorable pauvreté. Et tout d'un coup, il y a eu 150 000 réfugiés qui ont débarqué du Mali, mais vraiment soudainement. Il y a même le plus grand camp de réfugiés en Mauritanie, c'est devenu la troisième ville du pays. Et les choses se sont passées.
Vous parlez de Mbera.
Mbera, oui. Le camp de Mbera, juste à la frontière du Mali. Puis il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont allés, comme dans les autres pays, qui, ce qu'on appelle des réfugiés citadins, qui sont très difficiles à dénombrer, d'ailleurs. Mais les choses se sont passées d'une façon, je dirais même, harmonieuse. Et ça a même été une richesse plutôt dans ces pays où, du coup, ça a fait des échanges entre les populations. C'est devenu, Mbera est devenu un grand marché. Il y a eu une organisation qui a été menée à la fois par l'État mauritanien et le Haut Commissariat aux réfugiés, sans parler de l'UNICEF, sans parler des ONG qui sont venues là. Tout s'est passé de façon assez calme, finalement. De même qu'au Niger, même chose, et au Burkina. Alors que quand on voit en Europe, on est 500 millions d'habitants dans les pays les plus riches du monde. Et parce qu'il y a soi-disant déferlement de réfugiés, mais en proportion beaucoup moins que dans ces pays-là. On voit l'affolement de nos dirigeants, alors que nous sommes quand même, pour la plupart de ces réfugiés, de ces migrants, appelons-les comme on veut, on est quand même un petit peu responsable de leur venue chez nous, puisque entre l'Irak, l'Afghanistan et la Libye, on a été quand même les fomenteurs de ces désordres.
Tout à fait. Donc les choses finalement peuvent se passer paisiblement, c'est ça que...
Mais oui, j'arrive toujours pas à comprendre quel est l'affolement, mais surtout, ce qui est encore plus choquant, c'est une en période, là on dirait que nos dirigeants, les réponses qu'ils donnent, même aux événements récents, il y a le tout sécuritaire, le tout enfin avec des promesses dans ce genre qui vont vers la fermer les frontières, envoyer des soldats un peu partout, augmenter le budget de la sécurité. Je pense que les réponses, elles sont, enfin, ce que moi je ressens qu'elles sont, elles sont électoralistes pour du local ici. Et c'est quand même assez honteux d'en arriver là, quoi. C'est-à-dire que nos dirigeants se servent de ces événements qu'ils ont souvent fomentés eux-mêmes pour alimenter leur campagne électorale.
Alors, on reviendra sur le contexte géopolitique très complexe, évidemment, qui se révèle derrière votre livre et qui, évidemment, a des échos, de nombreux échos aujourd'hui. Néanmoins, cette ambiance, je reviens au camp de réfugiés, cette ambiance que vous découvrez, comment vous la décririez? Je pense aux photographies que vous nous livrez dans le livre où on voit bien qu'il y a une sorte de lassitude ambiante dans les grandes photographies que vous faites dans ces camps. Même si vous dites que ça se passe bien, quelque chose est bouleversé, non ? Ça ressort de vos photographies.
Oui, ça se passe bien. Les gens sont fiers et n'aiment pas montrer leur humiliation. Le propre des camps de réfugiés, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est vrai qu'il y a, même en photographie comme en dessin, on voit beaucoup dans mon livre des gens qui sont allongés et qui attendent. C'est l'attente. L'attente, souvent pendue à un téléphone quand il y a du réseau pour pouvoir avoir des nouvelles du cousin, de la famille, des voisins qui sont réfugiés ailleurs. Et en attente, et surtout en attente de nouvelles aussi des combattants. Parce que parfois il y a des familles de réfugiés dont c'est souvent les garçons, dont le père, le frère, le cousin appartient à un groupe en rébellion. Et ils suivent l'actualité quand même au jour le jour pour savoir. Mais en fait, l'objectif, c'est de savoir quand est-ce qu'on va rentrer.
Quand est-ce qu'on va rentrer à Tombouctou,
à
Bamako,
à Gao, à Kidal.
Quand est-ce qu'on va pouvoir quitter les camps de réfugiés
voilà, et rentrer
en
à la maison.
Tranquillité.
Rentrer à la maison. Et on prend aussi des nouvelles de la maison parce que quand ces gens s'en vont, en général, ils perdent tout. Ils perdent
les maisons sont détruites. J'imagine que
pillées,
les troupeaux sont décimés.
Voilà, dans certains pays comme au Niger, certains réfugiés sont venus avec leurs troupeaux. Ce qui posait, imaginez en Europe si les Syriens, les Afghans et tout ça venaient avec leurs troupeaux en plus. Alors là, ça ferait beaucoup jaser.
Alors vous le rappeliez à l'instant, la situation délicate de cette culture, on peut pas la comprendre sans essayer de saisir les enjeux politiques qui se sont déroulés et qui se déroulent, hélas, encore de nos jours dans cette région du monde. À la fin de votre livre, d'ailleurs, vous avez invité des chercheurs spécialistes de ces régions sahéliennes à écrire pour mieux comprendre cette situation géopolitique confuse. Écoutons un extrait qu'on a fait lire du texte de Pierre Boilet, professeur d'histoire de l'Afrique contemporaine à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui écrit sur les conflits au Mali.
En 2011, de jeunes Touaregs qui voulaient agir contre la marginalisation de leur région fondèrent le mouvement national de l'Azawad, MNA, dénomination qu'ils adoptèrent pour désigner l'ensemble du nord du Mali. Uniquement politique au départ, celui-ci ne fut pas entendu par le pouvoir qui mit certains de ses leaders en prison. Le MNA s'engagea alors dans la perspective d'une nouvelle lutte armée et se renomma Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA. Il se dota d'une branche militaire qui fut considérablement renforcée par le retour de Libye des Touaregs qui avaient fait partie de l'armée de Kadhafi après sa chute due à l'intervention française et européenne. Les Touaregs qui revinrent au Mali, profitant du chaos politique et de l'ouverture à tout venant des arsenaux libyens, arrivèrent surarmés, au volant d'engins blindés et de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes. Cet apport permit qu'une nouvelle révolte éclate le 17 janvier 2012, menée par un MNLA qui se voulait dorénavant non plus seulement Touareg, mais représentant de toutes les populations de l'Azawad. Touareg, Mor, Songhe, Peul, etc. Après une campagne fulgurante où l'armée malienne fut mise en déroute et un coup d'état militaire en mars à Bamako qui n'arrangea pas la situation pour le Mali, les grandes villes du nord furent occupées par les rebelles, Tombouctou tombant la dernière le 1er avril 2012. Le 6 avril, l'indépendance de l'Azawad était proclamée par le MNLA. Contrairement à la révolte de 1990 intégratrice, celle de 2012 était ouvertement sécessionniste et pensait avoir atteint son but. C'était sans compter sur les mouvements salafistes. ACMI s'était allié avec de nouveaux mouvements, Ansar ad-Din, les défenseurs de la foi, majoritairement Touareg, et le Mujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, composé d'Arabes et d'autres combattants issus des populations de la région. Prenant le MNLA par surprise, les salafistes prirent le contrôle des villes, repoussant le MNLA dans les brousses du Nord. Ils y établirent une justice islamique basée sur une charia violente, flagellant en public, coupant mains et pieds des voleurs ou lapidant les couples adultères, interdisant la musique, le football, les cigarettes et l'alcool. Ils s'en prirent aussi aux tombeaux des saints de la région et firent régner la terreur auprès des populations. Après plusieurs mois de ce régime à Gao, Tombouctou et Kidal, les mouvements salafistes firent brutalement mouvement vers Mopti et le sud du pays. Le Mali appela la France au secours, qui ne pouvant rester sans réaction devant la menace, lança le 11 janvier 2013 l'opération Serval. L'armée française reprit le contrôle du Nord en moins d'un mois et chercha ensuite à éradiquer la présence islamiste dans les montagnes.
Sur la musique de Tina Riwen, le titre « Le monde est grand ». Nous sommes sur France Culture et dans les regardeurs aujourd'hui. Nous observons ensemble des œuvres réalisées par l'artiste Titouan Lamazou, qui nous invite aussi à comprendre la situation instable d'un pays, le Mali. Titouan Lamazou, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs révoltes au départ, Touareg, qui ont ensuite été complètement dépassées par d'autres revendications.
Dans mes voyages, et surtout dans cette région, où, a priori, même si je la connais un peu, depuis quelques années, la situation géopolitique est assez confuse, et c'est pour ça que je me suis rapproché, au cours de ces années, de savants, de ce qu'on appelle les chercheurs, historiens, anthropologues, sociologues, linguistes,
dont
géographes.
Pierre Voilet, dont on écoutait à l'instant un texte.
Voilà, pour essayer moi-même de comprendre, pour de fait mieux transmettre, et ce qui me permet dans mon travail, moi, de me cantonner à ce que je sais faire le mieux, que j'aime faire, c'est de l'expression artistique et de l'observation intuitive. J'avais déjà expérimenté ça en Afghanistan, puis en RDC, au Congo, et je trouvais que ça marchait très bien. Et là, en l'occurrence, on est allé un petit peu plus loin et on a travaillé vraiment très longuement sur ces textes, cette intervention, le choix des thèmes, pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que moi, en lisant leurs écrits, en fait, je me comprenais beaucoup mieux les endroits que je traversais.
Oui, voilà. Évidemment. Alors ça donne un éclairage.
Moi, j'avais des relations, mais qui sont personnelles avec ces familles, notamment la famille d'Aïcha, qui était la nièce de Seydou Keïta. Il me l'avait fait rencontrer. C'était devenu... J'avais été très séduit par cette personne, parce qu'elle avait...
Vous interromps 5 minutes. Vous parlez de Aïcha, qui est un peu un des fils directeurs de votre livre et dont on trouve différents portraits de 1998 jusqu'à 2015. C'est un des protagonistes principaux de ce livre.
C'est la première personne de Tombouctou que j'avais rencontrée, et il se trouve que elle m'était apparue comme Miss Touareg. Elle correspondait exactement à l'archétype, le mythe Touareg, vous voyez, ces femmes très allongées, un petit peu comme on pourrait imaginer les Maasai ou les Peuls. Aïcha était devenue, pendant les mois qui ont suivi, les années qui suivirent, un petit peu ma muse, mais aussi mon guide à Tombouctou. Il m'a présenté toute sa famille, tous ses amis. Et c'est Aïcha que j'ai retrouvée 15 ans plus tard, dans un camp de réfugiés, au Burkina Faso, et qui avait pris entre-temps, qui avait, je crois, s'était mariée 2 fois, avait eu quelques enfants, avait pris quelques rondeurs et était devenue réellement pour le Sahel, là, vraiment Miss Touareg, parce que sa beauté accomplie correspondait beaucoup mieux au canon de la beauté locale qu'à la mienne.
Alors justement, dans votre récit, il y a une place particulière de la femme dans la société Touareg que vous soulignez. On entendait tout à l'heure un texte qui parlait un peu
qui évoquait cela. Oui, je m'étais...
Il y a beaucoup de portraits de femmes, en fait.
Surtout au départ, dans le livre. Et puis, petit à petit, il y a de plus en plus de portraits d'hommes. C'est ça l'avantage du temps, de la longueur. Parce que j'avais... Au départ, je voulais justement... exprimer cette contradiction qu'il y avait, ce paradoxe qu'il y avait dans la vision de ces peuples, notamment Touareg, mais pas que Touareg, dans cette région, qui sont, et de façon très, très ancienne, comme c'est une civilisation matrilinéaire. Je pense que le statut de la femme chez les Touareg au début du XXe siècle était beaucoup plus intéressant que le statut de la femme ici en France à cette même époque. Et le fait qu'il soit amalgamé avec des... Souvent dans les médias, parce qu'on parle volontiers dans les médias, des actions ponctuelles de salafistes, ils adorent ça apparemment, les médias, ils parlent toujours, ils mettent en une quand des groupes extrémistes se sont fait ont fait une action militaire, comme récemment, et quand il y a un enlèvement, par exemple, ça on en parle beaucoup, mais le reste du temps on parle de rien ni de personne, et on a l'impression, je pense que la plupart des gens du public qui lisent ces parutions, périodique donc, on fait un amalgame et mettent un peu tout ce monde dans le même sac, alors qu'il y a quand même des très très grandes différences auxquelles je voulais m'attacher, auxquelles je voulais montrer. Je montre des Touareg réfugiés qui sont avec un iPad, avec les cheveux au vent et en blue jean. C'est des filles qui font leurs études, qui se retrouvent dans une situation où elles sont obligées de les abandonner, justement, de quitter leur vie habituelle, mais qui ressemble beaucoup à la nôtre. Voilà, c'est ça que je voulais montrer, pour essayer de lutter contre ces idées reçues. Et c'est pour ça aussi que je m'adresse, dans mes voyages, à des scientifiques, à des chercheurs, justement, pour éviter, moi-même, de véhiculer des idées reçues ou des poncifs que je pourrais croire vérité.
Ce que je trouve très intéressant et ce qui est très sensible dans votre ouvrage, c'est cette émotion justement très sensible, très subjective qui émerge des dessins et des peintures qu'on peut observer. Et sans même lire les textes alentours, ça nous transmet une ambiance, une attitude. Et dans la manière même dont vous utilisez le médium de la peinture ou de l'acrylique qu'on voit couler parfois sur le papier, j'ai l'impression justement que vous traitez, vous laissez apparaître justement des coulures, vous laissez l'ébauche, comme si vous donniez à voir la figure en train d'advenir ou en train de disparaître. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces coulures, par exemple, qui apparaissent sur certains des portraits que vous réalisez ?
Je pourrais probablement les empêcher, mais justement, je fais en sorte de, je ne m'en soucie pas. Donc, ce qui veut dire que
vous les laissez advenir.
Que le trait, je fais un trait parce que je vais faire un trait. Il se trouve que le trait coule. Mes travaux, là, dans ce livre, sont presque des esquisses pour faire des œuvres au retour ou à l'atelier. D'ailleurs, à Bamako, je me suis installé, et ça c'était les premières fois où je faisais ça, je m'étais installé, j'avais créé un petit atelier dans lequel je restais plusieurs semaines pour finir mes travaux. Mais parfois, vous parlez de coulures, effectivement, dans certains dessins, enfin beaucoup de dessins, on les voit apparaître. Mais c'est un moment où justement, qui m'aide, dans un certain sens, à rester frais, à rester avec un premier trait, que je ne vais pas recouvrir, parce que d'abord ces coulures me plaisent à l'œil, et que si je retravaillais dessus, ça m'obligerait à les effacer. Et souvent d'ailleurs dans mon travail, j'avais remarqué que souvent je vais un peu trop loin dans mon travail, c'est-à-dire que je fais une esquisse qui me plaît beaucoup, et puis je continue à travailler jusqu'à ce que ça fasse une véritable peinture qui est beaucoup moins bien que l'esquisse.
Oui, on dirait que ces coulures ou l'ébauche que vous laissez comme cela sur le côté vient contredire la prouesse finalement de la représentation d'un visage. Est-ce que cette idée de l'ébauche que vous laissez apparente, c'est peut-être aussi la signature de l'artiste voyageur, ce choix de l'inachevé ?
Ben, je crois que c'est le voyage justement ou le mode de travail. Je ne peux pas laisser ma toile sur un chevalet pendant 3 semaines. Qui engendre cet aspect. Je ne pense pas que c'est voulu de ma part. Mais c'est-à-dire que ça va un petit peu plus vite. C'est une esquisse peinte qui reste dans cet état-là, avec parfois d'ailleurs l'intention de retravailler ces images par la suite, à mon retour, dans un atelier, soit à Bamako, soit à Paris. Ce que je ne fais pas, parce que je trouve que finalement, l'œuvre, elle est telle qu'elle, elle a été faite sur place, et ce qui ne m'empêche pas après de reprendre ces dessins, mais sur d'autres supports, qui peuvent être beaucoup plus grands, des toiles, et en fait ces esquisses-là sont des œuvres en soi.
Et alors la forme du livre semble un médium que vous avez souvent privilégié justement pour montrer vos œuvres, même si souvent elles existent en dehors de livres, hein, c'est ça, vous avez réalisé des expositions, mais pourquoi ce choix de faire des livres d'artistes ?
C'est justement mon mode de fonctionnement, le voyage par exemple, ou le déplacement, qui a induit cette pratique, parce que ça induit, ça devient...
C'est adéquat à votre mode de vie, quelque
part. C'est devenu un travail narratif. Et narratif, ça veut dire qu'on raconte une histoire. Et pour connaître un personnage, pour connaître son environnement, etc. Et donc, c'était le livre, même dans le format dans lequel, au départ, en tout cas, je travaillais sur des petits formats, sur des carnets qui étaient déjà des livres. Et j'ai dépassé ce support aujourd'hui. Mais ça reste, ça reste une conséquence. Mais chaque œuvre que je réalise sur place a un double statut, une double vocation en réalité, qui est la vocation narrative, où on va succéder des images dans un ordre chronologique le plus souvent, tout simplement, dans les pages d'un livre, et qui raconte une histoire, ou qui raconte même mon histoire. Mais la plupart de ces images peuvent être présentées dans le cadre plus classique d'une exposition, qui peuvent et qui doivent, en réalité, être des œuvres autonomes.
Alors, dans l'histoire de Retour à Tombouctou, vous nous racontez aujourd'hui que vous avez traversé de nombreux camps de réfugiés au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Et en Mauritanie, à un moment, dans le camp de Mbera, malgré un accueil chaleureux, on sent que la tension demeure et existe pour vous-même, parfois pendant ce voyage.
Je dois aux recommandations de mes amis Touareg de Tombouctou un accueil des plus chaleureux à Mbera. Leur communauté y est la plus nombreuse parmi les réfugiés. Si je ressens une certaine défiance, je sais qu'elle n'est pas dirigée à mon endroit, mais vers le personnel international en charge de la gestion du camp. Des expatriés originaires de pays non susceptibles de consentir à payer des rançons et, pour la plupart, originaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, suspecté par les réfugiés de racisme anti-Poclair et de parti pris pro-État malien. J'ai en effet eu quelques peines à obtenir l'autorisation de séjourner au camp. Étranger et de surcroît français, je suis une cible privilégiée pour un enlèvement. J'ai finalement arraché une autorisation de séjour de 3 à 5 jours, puis, à la faveur d'un impondérable, mon passage à Mbeera est encore prolongé. L'avion qui doit me ramener à Nouakchott est en panne. On me l'a assez répété. Les camps constituent souvent une zone de repos pour les combattants islamistes qui entretiennent des alliances parmi les réfugiés. Ces mises en garde me laissent tout de même un peu nerveux. L'ami Touareg, chargé de me guider à travers le camp, ne manifeste pas la moindre inquiétude. Mais un jour, alors que nous pénétrons sous une tente improvisée en gargote, nous avisons 3 barbus penchés sur un plat de semoule. Ils se figent à notre entrée et me fixent avec des yeux que je me figure pour l'occasion ronds comme le trou d'un canon. Je pense que je ne vais pas m'éterniser à Mbeera.
Quittons la Mazlou, dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là ?
Mais il y a des petits moments comme ça, enfin, qui sont permanents, c'est-à-dire qu'on fait dans ces régions-là, à force, d'abord j'écoute ce qu'on me raconte, et je fais attention, évidemment, à ne pas être l'objet d'un enlèvement. Il y a plein de petites recettes comme ça, qui sont quotidiennes, ne jamais emprunter la même route, ne jamais dire où on va, mais le fait que je prenne du temps me permet quand même... Voilà, je suis pas obligé, si quelque chose va pas très bien dans un coin, ou comme signal qu'il y a un mouvement de Moujaou, je ne sais quoi, dans quelle région, ben je diffère mon déplacement. Je fais donc attention. Je pense que question, parce que quand je suis sur mon scooter autour du, sur le périph à Paris, c'est un catalyseur d'adrénaline beaucoup plus puissant que quand je suis dans un camp de réfugiés en Mauritanie. Mais il se trouve qu'effectivement, parfois, il y a des petites parano, justifiées ou pas, qui nous visitent, mais ça s'arrête là. Je pense que je fais relativement attention, et puis il peut effectivement nous arriver des choses, mais comme ailleurs. Hein.
Au vu des derniers événements, ça paraît justifié quand même d'avoir un peu peur.
Oui, c'est justifié. Je pense que les gens, quand je suis en escale à Paris et que je repars là-bas, tous les gens autour de moi me disent que je suis cinglé, mais pourquoi je vais dans cette région ? Et comme d'ailleurs, voyez, on était Tombouctou, par exemple, il y a ce qu'on appelle la zone rouge. La zone rouge, qui est décrétée par le ministère des Affaires étrangères, c'est une zone où il est formellement déconseillé de séjourner pour les ressortissants français ou étrangers. Et moi, j'ai passé 3 ans et demi dans les zones rouges. Mais on avait bien conscience, d'ailleurs, avec les chercheurs, avec les savants, quand on était à Agadez ou à Tombouctou, en pleine zone rouge, que le danger, il n'était pas forcément dans ces endroits interdit, mais plutôt dans les capitales où il y a des rassemblements d'étrangers. Et ça se vérifie, et ça s'est vérifié à Niamey comme à Bamako très récemment. Ces zones-là, c'est très difficile. Moi, je fais très attention et je travaille, comme je vous le disais au début de l'émission, en collaboration avec le commissariat aux réfugiés, donc au Mali avec la MINUSMA, les casques bleus, et qui ont quand même un système d'information qui connaissent, qui passent sur le terrain, et qui assurent également la protection de mes déplacements. Et quand j'étais à Tombouctou, j'ai été aussi, mon déplacement a été sécurisé, que je le veuille ou non, par nos amis de l'opération Serval.
Et alors, à contrario, il y a aussi d'autres moments où vous semblez porté malgré tout par la poésie des lieux. Alors, je pense à cette virée que vous avez faite dans le désert de Laïr, au Niger, et dont vous avez peint des images magnifiques, assez inédites dans votre travail, des grands paysages étoilés, devenu presque abstrait. Dans votre livre, vous racontez, je vous cite, vous réveillez une nuit dans ce désert. Vous dites, il me semble que c'est la première fois que j'observe la grande ourse verticale. Le spectacle est grandiose. Les falaises de Tigidit sont posées sur l'horizon comme une île sur l'océan. Une pâle lueur progresse dans le paysage. C'est l'un des pick-up de l'escorte avec sa mitrailleuse en érection qui patrouille au loin. Sous ces étoiles, je nous trouve insignifiants. Et alors quand on regarde les grandes toiles dont je vous parle et que vous a inspiré cet épisode dans le désert, on a l'impression d'observer à notre tour une leçon aussi peut-être que nous donne l'univers. Quel sentiment existe autour de ces toiles? Moi je les trouve magnifiques, je les ai vues en vrai, en plus j'ai eu la chance de les voir dans votre atelier. Elles sont assez incroyables et assez inédites dans votre travail.
Oui, c'est une progression que vous verrez sûrement de plus en plus dans mon travail, ce genre de grand tableau. En fait, je prends le vous aurez vu le petit esquisse que j'ai fait, il était 2h du matin ou 1h30 dans le désert de l'Aïr, au pied des falaises de Tigidit, qui sont somptueux. C'était un lieu, il n'y a pas si longtemps, qui était un lieu privilégié pour les tour opérateurs et pour amener des touristes se promener, parce que c'est somptueux. Et c'est ces grands paysages, c'est pas la première fois d'ailleurs, c'est un peu, et je suis pas le seul comme ça, quand on lève les yeux au ciel, quand on n'habite pas dans des villes où il n'y a pas d'étoiles, parce qu'il y a de l'éclairage urbain, mais quand on est dans des grands paysages, que ce soit en mer, montagne, ou dans le désert, les cieux sont absolument sublimes. Et quand on regarde les étoiles, on pense à quoi? D'où on vient? Qui on est? Où allons-nous? C'était assez grandes questions qui nous a... Et quand vous êtes, en l'occurrence, comme moi, à cette époque-là, au pied des falaises de Tigidit, j'avais pu me rendre dans cette région uniquement escorté par l'armée nigérienne. Et j'avais deux automitrailleuses qui suivaient mes déplacements, déjà fort sympathiques. J'étais obligé, parce que moi, je n'aurais pas eu l'autorisation d'y aller. Et puis, bon, on ne se sent pas forcément rassuré quand on est dans le désert et qu'on sait que c'est parcouru de... Comme tout le monde sait tout dans ces régions-là, donc ma présence, elle était forcément connue de beaucoup de gens. Mais se retrouver là, en plus, avec des armes, des uniformes, des voitures bariolées, et là, on se dit vraiment que... Comment on a pu arriver là, quoi, quand on regarde le ciel, le firmament, et qu'on est la nuit sous les étoiles, on se trouve effectivement assez dérisoire et insignifiant dans nos préoccupations.
Alors il y a aussi des planches peintes dans votre livre qui sont aussi très originales, qui consistent en des cartes, enfin une véritable cartographie plutôt de votre voyage, qui ponctue l'ouvrage et qui accentue l'impression qu'on a de vous suivre au gré de vos pérégrinations. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de ces cartes?
Les cartes...
Ce sont les cartes peintes, hein?
Oui, je, dans la plupart de mes ouvrages, je rajoute des cartes parce que j'adore travailler sur les cartes depuis toujours, la cartographie, parce que c'est vrai que c'est un mode d'expression où on peut faire dire à une carte un peu ce qu'on veut, hein, d'ailleurs. Mais là, elles étaient quand même précises parce que je les ai élaborées, je les ai dessinées, je les ai élaborées avec mes amis chercheurs, notamment Charles Grémond, qui est un historien de l'IRD à Marseille, pour pouvoir illustrer les propos, égayer les propos savants des chercheurs qui sont intervenus dans ce livre. Et les cartes, ça donne... Moi, j'adore regarder les cartes et ça me parle. Ça me parle, c'est-à-dire quand je regarde... Bon, c'est peut-être mon passé maritime, peut-être, ou à une époque...
Non, mais c'est vrai que la cartographie, je pense même à des cartes anciennes jusqu'à des cartes très contemporaines, que rejouent d'ailleurs beaucoup d'artistes. C'est très intéressant, une espèce de jeu incroyable... qui fait penser à des cosmogonies presque moyenâgeuses. C'est assez fou.
Même ne serait-ce que sur la forme en soi, même hors de leur signification, c'est déjà un cadre imposé dans lequel on s'exprime et qui est, je trouve, très beau et qui permet vraiment d'exprimer ce qu'on ne trouve pas forcément dans les cartes, dans les atlas classiques. Sur les cartes, je pense aux cartes des différentes rébellions qui sont intervenus dans ces pays. Je n'avais pas vu avant. Je me souviens d'une carte qui m'avait...
Ce sont des réminiscences de ces cartes
C'est une carte tout à fait créée à cette occasion. Mais comme par exemple, je me rappelle dans un ouvrage précédent, j'avais eu beaucoup de plaisir avec des chercheurs sur les Roms de créer la carte des Roms depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours. Leur mouvement et tout ça n'avait jamais été fait. Et on comprend beaucoup mieux qui sont ces personnes, d'où elles viennent. Voilà. Par exemple, vous prenez la première carte dans mon livre, qui est la carte du fleuve Niger. On a l'impression, quand on a vu d'ici, que cette région de Tombouctou, de Gao et tout ça, c'est juste un désert. Quoi. Il y a du sable et quelques personnes qui se baladent dans le coin, avec des kalachnikovs aujourd'hui. Et vous vous rendez compte, tout au long du fleuve Niger, il y a des centaines et des centaines et des centaines de villages. Tout a été répertorié, cartographié d'ailleurs, depuis le 19e siècle, où on voit quelles sont les différentes ethnies qui se côtoient dans ces régions-là. Et on a une autre vision de cette région.
Oui, c'est magnifique, ces cartes, donc, avec ces grandes flèches, ces aplats colorés
qui
expriment les flux et les coulures qu'on retrouve. Il y a une grande carte également que vous faites sur la musique de cette région. À la fin de votre livre, vous donnez d'ailleurs la parole à Arnaud Contreras, qui est un grand spécialiste des musiques sahariennes, qui nous révèle aussi qu'il existe une musique touareg très engagée au départ, qui a soutenu les mouvements de rébellion au nord du Mali ou au Niger. Et parmi eux, le groupe Tinariwen, qui est devenu un mythe, qui a circulé à travers tout le Sahara sur des cassettes. Voici quelques archives autour de Tinariwen.
Tinariwen, c'est l'ipliriel de Ténéré. Ténéré qui veut dire un endroit désert où il n'y a absolument rien, Ténéré. Donc, plusieurs déserts, plusieurs endroits où il n'y a rien, c'est ce qu'on appelle Tinariwen.
Donc, pour eux, jusqu'aujourd'hui, le problème demeure le même. Ils ont vraiment des problèmes de communication avec les États-nations, du fait de leur mode de vie. C'est comme ça qu'à partir de 90, les jeunes Touaregs, de façon clandestine, en même temps qu'ils revenaient, ils diffusaient les cassettes de la musique tinariwen, dont Kerdou est membre, dans toutes les tribus et dans tout le désert, les cassettes circulaient. C'était quoi? C'était un appel à l'éveil de conscience des populations Touareg. Il faut que... Donc c'est ces messages que les Tinariwen diffusaient. Et ces cassettes, elles étaient plus dangereuses qu'une kalash. Et on ne pouvait pas les écouter, ces cassettes, de façon clandestine. En Algérie, tu mets la cassette de Tinariwen, on t'arrête au Mali, au Niger, en Libye, partout. Donc cependant, dans tous les campements, chacun avec sa cassette. Mais dès lors qu'un militaire arrive, on brûle. Parce qu'on te voit avec ça, ils peuvent te tuer même. Et aujourd'hui, le combat continue, mais à travers la musique.
Le combat continue à travers la musique, Titouan. Est-ce que le combat continue au travers l'art en général?
Oui, quand il parle de Kalachnikov, que je connais un
oui,
peu...
Oui, il dit que les cassettes étaient plus dangereuses qu'une kalach.
Voilà, mais je connais bien le leader du groupe Tinariwen, qui est extrêmement célèbre dans toute cette région, qui s'appelle Ibrahibon. Mais c'est l'homme le plus doux de la terre. Et si tous les assassins étaient comme Ibrahibon, tous les soldats seraient des troubadours aujourd'hui. Donc c'est effectivement sa musique a un pouvoir de c'est un baume je pense pour toutes ces populations et qui se reconnaissent en lui et qui lui est la voix de tous ces peuples.
C'était une musique qui véhiculait une rébellion réelle.
C'est toute cette génération de jeunes Touaregs qu'on a appelé les Ishomars. Ishomar, ça veut dire chômeur, en broken français de là-bas, qui ont fui les grandes sécheresses des années 70 et 80, terribles sécheresses qui ont décimé tous les troupeaux, et tous ces jeunes gens sont dû partir, pour beaucoup, comme Ibrahibom, ils sont retrouvés soldats en Libye, mais lui n'a pas ramené des armes de Libye, il a ramené une guitare électrique, et il a créé, c'est un peu, bon, tout le monde connaît Ali Farka Touré, et c'est un peu les mêmes genres de musique du désert, électrifiée, avec des Gibson, et qui ont amené de là-bas, et qui a lutté, il a lutté pour son peuple, contre par exemple les... tout le monde se souvient dans ce pays-là aussi, de ce qu'on appelle les villas de la sécheresse, parce que le monde entier s'était ému de ces grandes sécheresses, et il y avait eu beaucoup d'aides internationales qui avaient été dirigées vers le Mali, et ces aides internationales ont servi à construire ce qu'on appelle aujourd'hui encore les villas de la sécheresse, c'est-à-dire un magnifique quartier de Bamako où sont construits ce qu'ils appellent des châteaux là-bas, c'est-à-dire des villas somptueuses, et toute l'aide internationale a été détournée au profit des propriétaires, dont des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, etc., de la région, et qui est un des ferments des événements qui se passent actuellement.
Alors vous-même, vous êtes un artiste engagé, on le sait, et engagé auprès de l'UNICEF notamment. Vous avez développé un programme éducatif original dans ces régions du Sahel, dont on parle, qui s'appelle Enjeu d'eau.
Enjeu d'eau.
O-E-A-U. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Enjeu d'eau, c'est un thème qu'on a donné avec UNICEF Niger, avec la Fédération France Liberté en France, qui nous a aidés dans ce projet, et la Fédération Léo Lagrange. On a imaginé un programme éducatif, c'est un bien grand mot, mais on a confié à diverses écoles d'Agadez, de Niamey, de Tombouctou, des outils de dessin, des cahiers, des couleurs, des peintures, des tas de choses comme ça. Et on a fait la même chose en France, avec un certain nombre d'écoles sélectionnées également. Et l'idée était de faire travailler ces élèves, ça va des classes de primaire jusqu'en classe de seconde, sur la thématique de l'eau, qui est évidemment très prégnante quand on va dans le Sahel, mais chez nous aussi, l'eau c'est important. Et on leur a demandé à ces élèves aussi de travailler sur l'eau, en faisant des scénettes de théâtre, d'écrire des poèmes, faire des chansons. Et l'idée à la fin, ce que nous avons réalisé, c'est de mettre en relation ces élèves pour qu'ils partagent leur travail et qu'ils se voient. Et donc on les a mis en liaison
par Skype,
oui. Mais comme vous pouvez l'imaginer, dans ces régions-là, toutes les écoles ne sont pas dotées du réseau. Le CNES m'a fourni du matériel autonome de communication satellite pour les mettre en relation ensemble. Bon, et ça a extrêmement bien marché. On se rend compte que les enfants, l'idée c'est que mieux on se connaît, et le plus tôt on se connaît, et moins on se défie. Il faut se connaître pour ne pas se défier. Et ça a fort bien marché, j'espère que ça va perdurer. Et je pense que c'est la solution, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut aider dans ces pays-là. Il faut aider l'éducation, il faut aider la santé, et non pas forcément focaliser sur le blocage des frontières et sur la formation des militaires et leur armement.
Merci Titouan Lamazou, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble, non pas une, mais de nombreuses œuvres, dessins, peintures, cartes, photographies, réalisées par Titouan Lamazou entre 1998 et 2015 et publiées dans un magnifique ouvrage qui vient de sortir chez Gallimard. Le livre s'intitule « Retour à Tombouctou ». Pour en parler, nous étions en compagnie de Titouan Lamazou lui-même, qui nous a exprimé sa vision d'artiste et son regard sur une partie du monde qui vit encore aujourd'hui, hélas, dans une situation instable. Les derniers événements qui ont récemment eu lieu au Mali nous le rappellent douloureusement. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attachée de production et site internet, Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes, Jacques Garcy. À la technique, Manuel Couturier. Merci beaucoup. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam. Et dans quelques instants, vous retrouvez Catherine Libert et Villemonde.
Until you go, babe, go to come for me, babe, come to go by me.